Et ravi de voir l'intérêt. Il y a déjà eu une conférence, je pense qu'il y en aura d'autres sur Calvin. Donc le XVIe siècle nous intéresse encore aujourd'hui, et c'est vrai que cet homme mérite beaucoup mieux que ce qu'on en a fait, et ce que la réputation qu'il a. Et il y a beaucoup de choses qui sont encore dans notre modernité qu'on peut faire remonter à Calvin. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Alors, je vais faire un petit exposé, et puis je répondrai volontiers aux questions. On aura un échange après cela. Alors moi, je dois dire que Calvin, j'ai fait des études de théologie, j'ai fait des études de droit, je suis journaliste. J'ai été aussi un temps pasteur, en tout cas aumônier universitaire en Alsace. Mais je suis né à Nîmes, hein, je suis quand même en régional de l'étape. Je suis né ici. Et Calvin, je connaissais pour l'avoir étudié, oui, en faculté, au lycée, et puis surtout en faculté de théologie. Mais j'en avais entendu parler, mais je connaissais, bon, comme on peut l'être quand on a 20 ans, quand on fait des études, je voyais ça un petit peu de loin. Je trouve ça pas inintéressant sur le plan théologique, mais le bonhomme pas très enthousiasmant. Enfin, Luther est beaucoup plus accessible. On a l'image d'un Luther bon vivant, buveur de bière, amateur de bonne chair, propos de table, etc. Et on n'a pas du tout ça chez Calvin. Donc on a l'impression de quelqu'un d'assez triste, d'austère, maladif, avec un blafard. Donc vraiment un type pas sympathique. Et les gens qui ne connaissent pas vraiment trouvent qu'il n'est pas très sympathique. J'avais cette idée-là. Et puis, par des amis divers, j'ai été contacté par Gallimard qui m'ont dit, voilà, on a une collection qui s'appelle Folio Biographie, cette petite collection, et on voudrait que vous nous fassiez une biographie de Calvin qui soit faite par un journaliste, c'est-à-dire écrite de manière vivante, contextualisée. Et en même temps, on voudrait quelque chose d'accessible. C'est ce que j'ai hésité, puis je me suis dit, bon, je vais faire ça. Et je me suis replongé dans les textes de Calvin, j'ai lu tout ce qui était sorti comme biographie, etc. Et j'ai donc fait ce livre, et j'ai complètement changé d'avis sur Calvin. Et j'aimerais vous convaincre, non pas de ce que je pense, mais en tout cas, vous convaincre au moins que l'image que nous avons de Calvin n'est pas l'image du réformateur qu'il était. C'était absolument pas l'homme que nous avons l'habitude de décrire sous les traits, comme je disais tout à l'heure, de type extrêmement austère, pour ne pas dire pisse-vinaigre, coincé, bileux, pas enthousiasmant. Je pense honnêtement que Calvin est le contraire de tout cela. Alors évidemment, il est, comme vous l'avez dit, il préfère l'étude, il dit qu'il préfère l'étude, il dit qu'il est bien dans son cabinet, qu'il voudrait étudier, c'est vrai. Mais c'est aussi un extraordinaire homme d'action, un pragmatique qui s'est battu avec tout ce qui se passait dans son siècle. Et j'ai même fait une petite colonne un de ces jours dans Réforme, et c'est Olivier Millet, qui est un grand historien, qui le dit. En fait, on peut dire aussi que Calvin était un brillant journaliste. Et je pense que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il se servait de tous les événements du temps. D'ailleurs, il était en correspondance avec l'Europe entière, avec des princes, avec des rois, avec des gens qui pensaient, des intellectuels de l'époque. Et il envoyait des milliers de lettres. Je crois qu'on a sa correspondance à peu près 8000 lettres. On a perdu la moitié, ou même les trois quarts. Mais il correspondait, il débattait, et surtout il débattait avec l'Europe entière, et il se situait toujours dans l'histoire du temps. Il ne se situait pas de manière comme ça, intemporelle, mais il se passionnait et il intervenait dans l'histoire du temps. Alors, d'abord, pourquoi nous avons cette image aussi triste, aussi rigoriste, aussi austère de Calvin? Alors, il y a une explication et qui a trait aussi à ce que nous sommes. Enfin, moi, je parle en tant que je suis réformé, je suis né à Nîmes. Alors, je pense qu'il y a quelques protestants dans la salle, peut-être qu'il n'y a pas que des protestants, mais les protestants ont l'image, en tout cas les réformés, cette image d'austérité. Vous savez, par exemple, Jospin est un protestant, et lui, il disait qu'il était un austère qui se marre. Bon, alors, peut-être, mais enfin, il avait gardé le mot austère, il avait un côté austère, ça c'est vrai. Et si vous regardez les protestants dans l'histoire, on a cette réputation d'austérité. Alors, d'où ça vient? Alors, ça vient peut-être d'une raison qui remonte effectivement à Calvin. J'ai commencé mon livre par cet épisode parce que je pense qu'il est essentiel pour comprendre un peu ce qui s'est passé avec ce personnage. J'ai commencé mon livre par l'histoire de son enterrement. C'est pas très gai, mais c'est quand même très caractéristique. Calvin a été enterré, c'était un jour de printemps, et il y avait, ça s'appelle Plein Palais, c'est une banlieue de Genève, enfin un petit peu en dehors de la ville. Et il était là, on l'a amené, il y avait une grande fosse qui était là, c'était la fosse commune, et il avait demandé à ce qu'il soit enterré dans une fosse commune. Il a été cousu dans une espèce de sac de drap, de bas de gamme, on dirait aujourd'hui, cousu, pas de cercueil, rien. Il y avait là trois personnes autour de lui, il y avait Théodore de Bèze, il y avait peut-être son frère, une sœur, Ils étaient trois. Il n'y a pas eu de cantique, pas eu de prédication, pas eu de lecture biblique, rien. On l'a mis dans la terre. Son corps a fait boum, comme un corps qui tombe sur la terre. On a jeté la terre dessus et ils sont partis. Et Calvin avait demandé ça, pas seulement pour lui. Il avait écrit des articles ecclésiastiques, des ordonnances ecclésiastiques, c'était 1541, je crois, en codifiant de manière très précise comment on devait enterrer les gens dans ceux qui suivaient la réforme, ceux qui étaient des gens renouvelés par l'évangile et qui avaient découvert le pur évangile, comme il disait. Et donc, il a été enterré de manière extrêmement plus que simple. Là, pour le coup, austère. Et il avait demandé ça. Et pourquoi? Parce que pour lui, et ça c'est très intéressant, parce que ça reste encore dans les Cévennes et dans nos régions, c'est-à-dire que le mort, l'enveloppe charnelle, ça compte pas. Le corps du mort, ça ne compte pas. La vie du mort, c'est rendu à Dieu. Seul compte la prédication de la parole aujourd'hui. Donc quand on fait, je ne sais pas si vous avez assisté à des enterrements traditionnels dans les Cévennes ou dans nos régions réformées, mais c'est vrai qu'on fait ça. C'est-à-dire qu'on va d'abord au cimetière, on met le corps en terre, puis on va au temple, et là on lit l'écriture, on commente le texte de la Bible, on annonce la résurrection, mais on ne parle jamais du mort. Et alors je dis ça pourquoi? Et Calvin a vraiment codifié ça, il a pensé, il a décidé, il l'a appliqué pour lui-même de manière terrible. Il voulait surtout pas, d'ailleurs, que des gens viennent sur sa tombe se recueillir. On ne sait pas où est la tombe de Calvin. On n'a rien de lui. On n'a rien pu garder. Tu as des gens célèbres. On va sur leur tombe. C'est Chateaubriand. Il a fait une tombe face à l'océan pour que justement on vienne le voir. C'est absolument l'inverse de Chateaubriand. Et donc, cette idée-là, c'est l'idée au fond, et c'est là qu'il y a ce cœur du thème de l'austérité, c'est que l'existence charnelle, elle doit passer, ça compte pas, seule la parole compte. Donc, si vous voulez, on supprime pas seulement le corps, on supprime aussi l'histoire des personnes, on supprime leurs affections, leurs joies, leurs peines, l'histoire de leur vie. Tout ça est mis de côté au profit de la parole seule. C'est une très très belle idée. C'est quelque chose d'assez... Cette simplicité, elle est quelque part magnifique, mais elle est aussi quelque part, je dis le mot, inhumaine. C'est-à-dire que il n'y a plus de médiation. C'est-à-dire que tout ce qui a été la vie, tout ce qui a été l'histoire d'une personne, tout ça, on le met de côté, on n'en parle pas. Et donc, il y a là cette idée, au fond, que le moi est haïssable. Hein, complètement, il ne faut pas en parler, ce n'est pas important. Seule la parole de Dieu compte. Alors, c'est vrai que c'est très beau, c'est vrai que ça a une grande force, mais en même temps, là, il y a quelque chose qui fait dire que les protestants, les réformés et Calvin lui-même sont des gens extrêmement austères. C'est-à-dire que l'humain doit être mis de côté. Alors là, il y a une explication de notre réputation d'austérité et de la réputation de Calvin. Mais c'est à partir d'une réflexion, c'est à partir d'une analyse, et c'est surtout dans le but de montrer que ce qui est essentiel, ce n'est pas soi-même, ce n'est pas sa vie, ce n'est pas sa réflexion, ce n'est pas son intelligence, c'est la parole de Dieu, c'est le message de la Bible. C'est ce qu'il voulait dire. En même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit ça, il montre ça, mais lui-même, dans sa vie, il est extrêmement présent, il est extrêmement vivant. Alors, ce n'est pas un bon vivant, comme Luther, mais c'est un homme vivant et qui vit de toutes les fibres de son être dans le temps qu'il traverse. Mais voilà, je voulais commencer par cette affaire-là pour un peu donner la clé d'explication, pour moi, d'où vient cette idée d'austérité. Et Calvin était austère dans le sens que je viens de dire, mais il n'était pas austère, je ne pense pas, pour le reste de sa vie. Et je voudrais essayer de vous le montrer. Donc voilà le premier point que je voulais montrer. Ce qu'il veut dire, ce qui se passe à travers ça, c'est que l'essentiel pour lui, et c'est toute sa démarche, c'est qu'il se veut essentiellement un homme au service de la parole écrite de la Bible. Essentiellement, Calvin, il parle de politique, il parle d'économie, il parle d'éthique, il parle de tout ce que vous voulez, il parle des comportements humains, mais il revient toujours à cette idée que son job, c'est d'être commentateur de l'écriture. Il commente l'écriture, il commente la Bible, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il veut faire, et il veut que l'écriture soit de nouveau au centre de la vie du croyant, au centre de l'humanité, et donc tout est au service de la parole. Essentiellement, on peut dire beaucoup de choses sur Calvin, mais ce qu'il a voulu faire d'essentiel, c'est de remettre la Bible, la parole de Dieu, au centre de son existence, de l'existence de tout un chacun, et il nous rend cette idée-là que l'écriture doit rester toujours le centre. Alors, ce qui est intéressant aussi, alors je disais Calvin, il est un homme de son temps, un grand intellectuel. Sa jeunesse, il a passé à discuter, il a fait du droit, il a fait de la théologie, il a fait beaucoup de choses. Il était un humaniste, un lettré, un fin lettré, il était vraiment inséré dans la société, de son temps et pleinement. Ce que je souligne quand même, c'est que, alors qu'il était un contemporain de Guillaume Budet, il a dialogué avec Erasme, même s'il n'a pas vraiment croisé, c'était un vrai intellectuel de cette époque-là, du XVIe siècle, qui était à la Sorbonne. Il a une pensée qui a influencé le monde entier. Enfin, vous avez des pays comme la Hollande, l'Angleterre, les États-Unis, où Calvin est quelqu'un de très connu, où on a l'impression que le pays a été marqué par cette tradition. Or, en France, il est surtout ignoré. Alors, on dit qu'il est austère, je disais tout à l'heure sa réputation, on sait ça, mais ce que Calvin a dit, ce que Calvin a fait, ce que Calvin a proposé comme réflexion, honnêtement, peut-être que vous savez ici à Alès, mais quand on interroge, même moi je suis dans le milieu journalistique, j'interroge les journalistes, personne ne sait un traître mot. Alors, on dit si, la prédestination, ou un truc horrible, affreux, compliqué. Mais rien, enfin, au fond, il est totalement ignoré. C'est une espèce d'angle mort de notre culture française, alors qu'il est français. Il est né à Noyon, en Picardie. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de notre patrimoine. Mais aussi bien, on parle de beaucoup d'intellectuels en France, mais on ne parle pas de Calvin. Dans le débat français, Calvin ne vient jamais. On parle de Rabelais, on parle d'Erasme, on parle de Machiavel, on parle de Pascal, on parle... Beaucoup d'auteurs qui sont connus, et Calvin ne l'est pas. Calvin n'est plus que pas connu. Il est ignoré par la culture française. C'est un espèce de grand oublié, le grand oublié de notre histoire, et grand oublié surtout de notre littérature, notre écriture française. Calvin est un des premiers auteurs de langue française. Vous savez qu'à l'époque, les débats avaient lieu en latin. Ils débattaient les uns avec les autres en latin, mais Calvin est un des premiers à avoir écrit en langue vulgaire, donc en français, et il tenait à un français, une belle langue. Souvent, il n'était pas d'accord avec certains de ses proches, comme Castellan ou d'autres, ou même Olivetan, qui a traduit la Bible. Il disait que le français était rugueux, rustre, enfin pas bien écrit. Il avait un amour de cette langue, et il a écrit de manière magnifique. Tout à l'heure, on parlait du traité des reliques, c'est lisible, le traité des reliques, c'est traduit, bon, c'était l'ancien français, c'est traduit en français courant, mais vous lisez ça, vous êtes pris par cette lecture qui est on sent une vivacité extraordinaire de la langue, et Calvin est un des premiers écrivains français qui a écrit des magnifiques textes dans une magnifique langue, et là encore, personne ne parle on parle de Rabelais, mais d'ailleurs, ils se traitaient de bougres entre deux. Ils ne s'aimaient pas tellement, Rabelais et Calvin. Ils se connaissaient et ils s'écrivaient. Ils le traitent de rustre. Calvin traite Rabelais de rustre, l'autre traite de bougre. Bon, enfin, pas ça. C'est moi la parenthèse. Donc, on connaît ces gens-là, mais on ne connaît pas Calvin, alors que Calvin a écrit un des premiers auteurs français et n'a pas été du tout repéré dans notre culture française comme un des grands auteurs français. Calvin a nourri pas mal de philosophes. Il a nourri, par exemple, la philosophie de Hobbes, qui parle souvent de Calvin, qui le cite. Rousseau aussi discutait avec lui. Ça, c'est plus proche de nous. Mais on n'a pas vraiment de débat autour de la pensée de Calvin. Or, il y a des débats autour de la pensée de Calvin en Angleterre, aux États-Unis, en Hollande, avec les puritains, alors qu'en France, il est totalement, totalement oublié. Et on peut même dire que via Calvin, le puritanisme qui a donné naissance, vous savez, c'est Pilgrim Fathers, c'est les pères pèlerins qui ont fondé les États-Unis, étaient des puritains qui sont directement des descendants de Calvin. Alors on dira après, mais il y a des liens entre ce que dit Calvin et les États-Unis. On peut trouver des filiations. Il y a quelque chose qui ressemble à la pensée de Calvin aux États-Unis, beaucoup plus que ce qu'il y a en France. Donc via les puritains, via le monde anglo-saxon, la pensée de Calvin s'est développée dans d'autres régions du monde, mais pas vraiment en France. Alors, l'image caricaturale, j'en ai déjà parlé. Ce que je voudrais souligner, c'est que, on disait tout à l'heure, vous le disiez à l'instant, en introduisant, Calvin, on dit, c'est quelqu'un d'austère, de ce cabinet, il voulait rester entre soi, etc. Mais on voit rarement dans l'histoire un homme qui est autant aux prises, en débat avec ses contemporains. Et c'est vrai qu'il polémiquait beaucoup, et il polémiquait évidemment beaucoup avec ce qu'il appelait les instruments infernaux du pape. C'est-à-dire que l'Église catholique, le débat avec l'Église catholique, il est continuel dans la pensée de Calvin. Il est, dès le départ de sa conversion, peut-être on va en dire un mot, sa conversion, qui n'est pas si évidente, mais dès le départ, quand il est devenu le réformateur qu'il devait être, qu'il était après, il entre dans une polémique avec l'Église catholique, avec le pape, avec Rome, avec les évêques, avec les curés, avec les moines, les monastères, avec les pratiques de l'Église catholique, qui ne cessera jamais. La polémique contre l'Église catholique, elle est immense et elle court toute son œuvre. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Ça, on peut en débattre aussi entre nous après. Qu'est-ce qu'il en reste ? Il en reste peut-être effectivement beaucoup moins. Mais en tout cas, il y a des choses à l'époque qui sont pas inintéressantes dans ce qu'il nous dit. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on dit un type austère dans ce cabinet, etc. Mais il avait surtout une puissance de travail, une capacité de mobilisation de son intelligence que je trouve phénoménale. C'est-à-dire qu'il traitait à la fois des textes de théologie, il s'intéressait aux questions politiques du monde, il s'intéressait aux questions domestiques de ses proches, il s'intéressait évidemment beaucoup à la ville de Genève, il s'intéressait aux autres villes réformées de l'époque. Donc il était un homme qui ne s'arrêtait pratiquement jamais de travailler, de prêcher, d'écrire, de polémiquer, de débattre. Il prêchait 5-6 fois par semaine, parfois 2 fois par jour. Quand on disait prêcher, il ne prêchait pas 5 minutes. Il prêchait une demi-heure, une heure, parfois plus. À la fin de sa vie, il était malade à un point terrible. Et on le prenait dans son lit, on le portait à travers la ville. C'était pas très loin, là où il habitait, de la cathédrale de Genève. Et on le transportait comme ça, et on le dressait en chaire. Il prêchait, et puis on le recouchait, et il repartait s'allonger chez lui. Donc il n'a jamais cessé de travailler, et c'était une espèce de monstre de travail, quoi. Je veux dire, il n'a jamais voulu renoncer à quoi que ce soit. Il ne voulait pas dicter ses lettres à un secrétaire, parce qu'il disait non, les gens à qui je vais m'adresser, s'ils voient que ce n'est pas ma main, ils ne vont pas être satisfaits de ce contact avec moi. Il faut que ce soit moi qui écrive. Donc il écrivait pratiquement nuit et jour. Il prêchait, il travaillait, il débattait. Je veux dire, une puissance de travail phénoménale, alors qu'en même temps, et il est mort assez jeune, il est mort à 54 ans. En même temps, il était affublé, et c'est aussi ça, sa réputation peut-être, de tas de maladies. Il avait la goutte, il avait des rhumatismes articulaires, il avait des problèmes de, je ne sais plus, de goutte, de rhumatisme, de maux de tête. C'était épouvantable. C'était un homme qui avait des maladies à n'en plus finir, et il surmontait tout ça. Et il est mort d'épuisement, certainement. Mais il était affublé de maladies sans nom, sans fin, et il disait qu'il avait un corps imbécile. Il traitait son corps d'imbécile, ce corps imbécile qui ne suivait pas, alors qu'il avait tellement de choses à faire et à débattre. Alors là aussi, peut-être il y a un côté d'austérité, mais ce n'est pas l'austérité, il ne s'occupe pas de son corps, mais à côté de ça, c'est un homme extrêmement vivant, enfin, je veux dire, d'une intelligence vive. C'est tout sauf quelqu'un de passif, d'endormi, dans son coin et d'enfermé. C'est tout à fait le contraire. Donc une puissance intellectuelle rare, un bourreau de travail qui n'arrêtait jamais de travailler jusqu'à la fin de sa vie. La troisième chose que je voulais dire après donc les caractéristiques, j'ai dit qu'il était ignoré, qu'il était caricaturé, et la chose qui me paraît, moi, la plus intéressante que j'ai trouvée et qui me paraît la plus moderne chez Calvin, c'est qu'au fond, et ça c'est lié avec son anticatholicisme, j'allais dire primaire. Non, il n'est pas primaire, il est bien réfléchi. Il est fondamentalement, pour moi, cette lutte sans merci contre la religion catholique, c'est pas tellement contre la religion catholique, contre Rome, qu'il lutte. Et c'est là, c'est très moderne. Ce contre quoi il lutte, en fait, c'est contre une religion qui manipule les peurs. C'est contre une religion de domination et d'écrasement des individus. Parce que c'est ça la religion du Moyen-Âge, la religion catholique du Moyen-Âge. C'est une religion où on est mû par la peur, donc on pratique, alors on fait des pèlerinages, on fait des pratiques religieuses, on fait des paternosters, on fait des Ave Maria, je ne sais pas exactement tout ce qu'à l'époque on peut faire comme liste, mais on est dans une tradition religieuse où il faut à tout prix pratiquer par peur de ce Dieu, de la colère de ce Dieu qui peut envoyer tous les méfaits, les maléfices les plus épouvantables. On pense à la peste, on pense au drame de l'époque qui était terrible. Et tout ça était attribué à une puissance divine qui était essentiellement une puissance de domination et qui maintenait les gens dans la peur. Et quand il critique l'Église catholique, il critique l'Église d'Antony dans le sens où c'est une Église qui manipule les peurs, qui utilise les peurs à son profit pour dominer les consciences, pour dominer les hommes et les femmes de ce temps et pour les maintenir dans une espèce de carcan qui est lié d'ailleurs au pouvoir politique aussi, puisque le roi est de pouvoir divin. Donc il y a un lien entre l'Église et la royauté. Alors il ne casse pas ce lien-là, il n'est pas un révolutionnaire, il ne faut pas non plus faire quelqu'un de trop moderne. Mais par rapport à la religion, par rapport à la tradition catholique, ce qu'il conteste radicalement, c'est que c'est une religion de la peur. C'est une religion des superstitions, c'est une religion de manipulation. C'est ce qu'il voit et ce qu'il décrit à l'époque. Et l'effort de Calvin, et ça je trouve ça extraordinaire et d'une modernité formidable, c'est que c'est un mouvement de libération. C'est un grand mouvement d'émancipation de l'homme. Quand je dis l'homme et la femme, c'est un mouvement vraiment où on soulève quelque chose d'un monde qui mettait les consciences et les hommes et les femmes de ce temps sous l'éteignoir, sous une espèce d'écrasement. Il y a une espèce d'ouverture. Les hommes, les femmes de ce temps peuvent se relever, peuvent ne pas avoir peur de l'avenir, de ce Dieu qui est le cœur de la culture, qui est partout. Hein, la religion, ce n'est pas comme aujourd'hui, ce n'est pas un temps sécularisé. La religion est dans tous les domaines de la vie. Et bien là, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a les oripeaux dans le vieux monde qui sont ouverts, qui est en train de passer. Et c'est ça la réforme, le mouvement de la réforme, et c'est aussi pour ça qu'elle fait très très peur. Elle fait très peur au pouvoir politique, elle fait très peur aussi au pouvoir religieux, bien sûr, mais elle fera peur aussi aux réformateurs et aux réformés. Parce que cette espèce de grand mouvement de libération, d'ouverture d'un nouveau monde, à la fois, de temps en temps, c'est vrai chez Luther et c'est vrai chez Calvin, quelque part ça les effraie aussi, parce qu'ils ont peur. Vous savez, quand Luther, par exemple, ordonne aux princes d'aller contre les paysans, de mater une révolte des paysans, ces paysans, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ben, ils voulaient se libérer du carcan des princes. Ils voulaient s'émanciper totalement. Ils étaient dans une dimension politique. Et cette dimension politique, elle fait peur à Luther. Et Calvin fera pareil avec les anabaptistes. Les anabaptistes sont... On met sur le mot anabaptiste toutes sortes de choses, mais en gros, sont des gens qui refusent le baptême des enfants, mais au-delà de ça, ils ne veulent pas payer d'impôts, ils refusent de porter les armes, donc il y a une espèce aussi, ils tirent des conséquences politiques immédiates de leur adhésion au pur évangile, à la nouvelle foi réformée, et ça, Calvin en aura peur, et tous les réformateurs en auront peur, parce qu'ils pensent que là, on va aller vers un basculement total de l'histoire, on va vers l'anarchie, et on va sur quelque chose qu'il n'imagine même pas. Donc il combat très très violemment les anabaptistes dès le départ, parce qu'il pense que c'est une déviance, une dérive qui peut faire basculer le monde d'alors, et qui peut justifier une répression terrible contre la réforme, et que la réforme passe par pertes et profits, avec l'idée que les rois et les princes ne peuvent pas supporter cette espèce de révolution, de ferment révolutionnaire qui mettrait le monde par terre. Donc il y a cette idée qu'il y a un nouveau monde qui naît, il y a quelque chose qui fait que les hommes peuvent se relever, mais en même temps, on sent bien chez Calvin et chez Luther, c'est très clair aussi, il y a une espèce de crainte face à cette espèce de mouvement qui les dépasse, qui va encore plus loin que ce qu'eux, on peut imaginer. Donc Calvin revient à des idées, au point de vue politique, assez traditionnelles, en disant qu'il faut un prince, qu'il faut se mettre au prince. Il écrit d'ailleurs sa première institution chrétienne, il l'envoie à François Ier pour lui montrer combien les réformés sont des chrétiens authentiques, c'est le vrai évangile, et c'est pas un ferment de discorde, de désordre, mais c'est au contraire le retour au pur et au vrai évangile. Mais fondamentalement, et c'est ce que moi j'ai trouvé de plus fort, c'est que ce mouvement de la réforme, c'est un mouvement qui est contre les religions, contre la religion de la peur, contre les superstitions, contre l'idolâtrie. Et Calvin n'a pas de mots assez durs pour fustiger l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est très simple. C'est prendre un accessoire, une personne humaine, une institution, pour la fin dernière, pour Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est adorer la créature à la place du créateur. Et dans le traité des reliques, il explique ça très très bien et de manière très détaillée. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, il faut aller à tel endroit, il faut toucher le corps de tel saint, il faut prendre dans sa main ou mettre la main, etc. Mais il dit, là, on adore vraiment les créatures, on adore un objet, on adore, et cet objet vous enferme, cet objet vous lie, cet objet ne vous donne pas une plénitude d'être, elle vous lie à un lieu, à un temps, à une histoire, à quelque chose de particulier, alors que l'évangile, le pur évangile, il n'est qu'esprit et il se rencontre dans l'écriture et pas à travers des intermédiaires, quels qu'ils soient. Et donc ce combat contre l'idolâtrie, ce combat contre les superstitions, contre la peur, il va jusqu'à l'iconoclasme. Il est iconoclaste quand il parle dans le traité des reliques. Je donne un exemple parce qu'il est toujours assez... Même aujourd'hui, il est choquant. C'est vraiment là l'iconoclaste. Je dis cette petite chose pour vous amuser. C'est qu'il fait le compte. Vous savez, il y avait des pèlerinages et des endroits où on avait des reliques où il fallait aller... toucher telle chose. Et alors, donc, il fait le compte, il fait des espèces de catalogues de tous les lieux où il y a des cheveux de Saint-Antoine, des dents, tout ce que vous voulez. Et alors, il fait à un moment la liste de tous les endroits où il y a des vierges dont le sein suinte du lait de la Vierge. Alors, il fait le total, et c'est là que c'est choquant, excusez-moi, il fait le total de tous ces endroits, et puis il arrive à une telle somme de lieux qui dit... Probablement, ce n'est pas possible autrement, pour qu'il y ait autant de lait dans autant d'endroits, la Vierge devait être probablement une vache. Donc c'est vrai que c'est choquant, mais enfin c'est assez, il dit ça comme ça, il jette ça comme ça, il dit pour qu'il y ait autant de lait, ça ne peut être qu'une vache. Donc c'est pour dire, vous imaginez au XVIe siècle quand même dire ça, c'est de l'iconoclasme, c'est vraiment pas respectueux de la piété marielle en tout cas, même s'il n'a rien contre Marie, mais il dénonce ces pratiques-là, et avec dans des termes, c'est vrai qu'on disait que le texte est humoristique, il dit lui-même, il dit assez de risées, mais on sent qu'il est emporté et qu'il se marre, comme on disait tout à l'heure, il se marre assez en écrivant tout ça. Mais au fond, c'est ça qu'il veut dire, il faut combattre cette religion qui enferme, combattre les superstitions, combattre l'idolâtrie, et donc il va jusqu'à l'iconoclasme. Enfin, ça me paraît assez clair. Tout ça, pourquoi ? J'ai parlé tout à l'heure de l'aspect spirituel et de l'aspect de Dieu-Esprit. Parce qu'au fond, une idée principale qu'il a, c'est que Dieu ne peut être qu'un être spirituel, un être qui doit échapper à tout entendement, pas seulement entendement, à toute captation humaine. Et ça, c'est très important. Et là aussi, moi, je trouve que c'est assez moderne. C'est-à-dire que ce Dieu... c'est pour ça qu'il parle de solideo gloria, la seule gloire de Dieu. Ce Dieu, il est radicalement le tout autre. Et ce Dieu, personne ne peut mettre la main dessus et dire « Gott mit uns ». Ce Dieu est avec moi, ce Dieu est mon Dieu, ce Dieu m'appartient, ce Dieu est celui de ma patrie, de mon clan, je ne sais pas trop quoi. Dieu, radicalement, il est le tout autre. Et aucune institution humaine, aucun être, fût-il un roi, un prince, un plus grand théologien, un père de l'Église, ne peut mettre la main sur ce Dieu. Ce Dieu est radicalement le tout autre. Ce Dieu n'appartient à personne. Et ce Dieu, il est, non pas le Dieu inconnu, mais ce Dieu qui se révèle seulement dans l'Écriture, seulement dans la relation que nous avons avec lui, seulement par la médiation de l'Écriture et de l'Esprit-Saint. Et donc, ce Dieu n'appartient à personne. Ce Dieu n'est celui de personne. Nous pouvons nous approcher de lui, nous pouvons tenter de le connaître, nous pouvons tenter de l'aimer, de le suivre, mais il n'est pas notre Dieu. Nous l'appartenons, mais il ne nous appartient pas. Dans la capacité d'être soumis à une doctrine, à des dogmes, à une église, à des principes quels qu'ils soient. Ce Dieu est radicalement le tout autre. Il n'y a pas d'institution humaine qui puisse contenir ce message, qui puisse contenir cette vision de ce Dieu. Ce Dieu est le tout autre et il doit rester comme ça. Et c'est d'ailleurs le sens même de la prédestination. La prédestination, je dis ça très rapidement, on y reviendra si vous voulez, mais c'est l'idée que l'homme ne peut rien. Mais ce n'est pas une fatalité, ça. Ça veut dire simplement que ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par les pèlerinages qu'on fera qu'on obtiendra quoi que ce soit de Dieu, c'est par l'amour de Dieu lui-même que Dieu a pour nous. C'est ce qu'on appelle effectivement le thème du salut par la grâce. C'est-à-dire que l'initiative vient de Dieu, elle n'appartient qu'à Dieu. Nous sommes seulement des réceptacles, mais nous ne sommes pas en capacité de quémander, de faire venir la bénédiction de Dieu sur nous. C'est Dieu qui prend l'initiative, c'est toujours Dieu qui a l'initiative. Et la prédestination, ça veut dire que c'est exactement ça. Ce n'est que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, c'est nous, c'est lui qui nous a choisi le premier. Et nous sommes seulement les mains ouvertes dans la capacité de l'accueillir. Nous pouvons l'accueillir, nous pouvons le refuser ou l'accueillir, mais nous n'avons que cette capacité-là, nous n'avons pas la capacité de mettre la main sur lui et de dire, si nous pratiquons telle et telle chose, nous aurons Dieu avec nous. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, alors, effectivement, tout ça, c'est le meilleur côté de Calvin, je dirais que le côté le plus moderne, le plus... qui pour nous nous parle. Mais en même temps, il n'y a pas que ça chez Calvin, alors il faut que je dise d'autres choses aussi. C'est vrai que ce qui s'est passé, donc je ne sais pas, vous avez déjà eu d'autres conférences, je n'ai pas raconté sa vie, il est parti de Noyon, il est allé à Bâle, puis il est allé à Strasbourg, de Strasbourg il est allé à Genève, enfin non, il est allé d'abord de Bâle à Genève, et puis il a été chassé de Genève, il est reparti à Strasbourg, et on l'a rappelé à Genève. Donc, il a eu plusieurs pérégrinations, mais son lieu central, l'engagement de sa vie, le lieu où la réforme pour lui a pris racine, enfin la tradition qu'on appellera calviniste pas après, c'est Genève. Et c'est Genève, pour lui, il voulait en faire non pas un modèle, non pas quelque chose, une espèce de cité éternelle, magnifique, une maison sur la montagne, une cité sur la montagne, mais il voulait en faire un lieu où on pouvait vivre et expérimenter les principes de la réforme, et on pouvait vivre le plein évangile, le pur évangile, plutôt c'est le pur évangile, à l'époque le plein évangile ça fait référence à d'autres choses. Donc pour lui, Genève doit être cette cité où l'évangile est pris au sérieux, où la parole de Dieu est prise au sérieux, et la parole de Dieu doit inonder toute l'existence, tous les domaines de l'existence. Et donc pour lui, Genève c'est cela. Sauf que ça ne se passe pas si facilement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adhèrent, il y a beaucoup de gens du refuge, il y a des gens de cette région qui viennent et qui fuient, qui trouvent refuge à Genève. Il y a beaucoup d'immigrés, de Français qui viennent à l'époque, qui développent Genève, l'industrie, l'horlogerie, tout ce que vous voulez, l'imprimerie, enfin tout ça, c'est des Français qui s'installent là-bas. Donc là, avec eux, il n'y a pas de souci parce qu'ils viennent parce que Calvin est là. Mais ça ne se passe pas si facilement et la population autochtone qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas forcément enthousiaste. Ils ont accepté Farel et Calvin, mais ils ne sont pas toujours d'accord avec toutes les thèses, tout ce que développe Calvin. Et donc le problème, c'est que Calvin, dans la mesure où pour lui, cette cité doit comme quelque part être un modèle, non pas un modèle absolu, parce qu'il accepte la discussion et l'échange, mais doit servir de référence, au moins pour le monde catholique qui est hostile, qui est autour. Et il y avait des échanges, mais on avait le temps de l'époque était extrêmement plus qu'hostile. Enfin, il y a une hostilité, une violence contre la réforme qui est inimaginable aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Europe entière, sauf les pays ou les principautés protestantes, voyait plus que de mauvais œil. Enfin, il fallait éradiquer ces élans réformés. Et donc, ils en butent à des pressions considérables, politiques, économiques, parfois militaires, qui étaient sans nom. Et donc, Calvin voulait à tout prix préserver Genève et préserver l'authenticité d'une ville qui était animée, qui était éclairée par l'Évangile. Sauf que, je vous disais, ça ne se passait pas toujours si facilement. Et il a parfois, et c'est là qu'on est dans des dérives, il a voulu que cette ville soit exemplaire, quitte à ce que ça passe non pas par l'adhésion des personnes, mais par la loi. C'est un juriste, Calvin. Il a été aussi une formation de juriste. Et il passe son temps à discuter avec le magistrat. Je reviendrai après sur le rôle le politique et le religieux. Il y a des choses intéressantes. Mais il passe beaucoup de temps à discuter avec le magistrat pour que la ville de Genève entière soit consacrée à Dieu. C'est-à-dire que tous les gens respectent les citoyens de Genève, qu'ils soient adhérents ou pas à la réforme, entre dans les principes de la réforme. Et sauf que dans toute cité, quand vous dites aux gens il faut penser comme ça ou il faut avoir tel comportement, il y a toujours des gens qui ne marchent pas, et c'est évident, et c'est humain et normal. Et donc il a recours à des procédés qu'on pourrait appeler une espèce de police politique, c'est-à-dire qu'il y a des cisonniers, des disonniers qui se baladent dans les rues, et quand il y a des gens qui font du chambard le soir, qui sont dans des tavernes et qui boivent un petit coup de trop, ou qui dansent jusqu'à des heures indues du matin, même d'ailleurs, de toute façon, la danse, pour lui, c'était pas tout à fait bien, donc il interdit Il est interdit. Quand il y a des gens qui jouent aux quilles dans les rues de Genève, et surtout le dimanche matin pendant le culte, eh bien, il le fait interdire, parce qu'on ne joue pas aux quilles, aux jeux de quilles, devant, pendant que lui-même ou d'autres pasteurs prêchent. Et donc, de fil en aiguille, c'est vrai que cette cité, il y a des oppositions dès l'époque, il y en aura par la suite, et là il s'est fait aussi une mauvaise réputation, Calvin, c'est qu'il impose par la loi sa vision d'une cité qui est renouvelée par l'Évangile. Alors ceux qui adhèrent, évidemment, ça ne pose pas de problème, mais ceux qui n'adhèrent pas et qui sont là depuis longtemps, mais ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ce type qui veut nous engérimenter, qui veut nous donner une manière de vivre qui n'est pas la nôtre. Et donc il y a des polémiques terribles déjà dès l'époque, parce que Calvin introduit par la loi donc votée par le magistrat de Genève, des tas de réglementations, de règles qui fait que les libertés sont un peu surveillées. Alors là, il y a des choses qui ne nous plaisent pas tellement aujourd'hui et qui sont un peu, oui, j'emploie le mot police politique, mais c'est une police religieuse. Et c'est pour ça qu'on a dit que Genève pouvait être une espèce de ville, de cité sainte. On a comparé ça à une cité comme aujourd'hui on voit dans les pays musulmans, avec une espèce de domination du religieux sur le politique. C'est pas du tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des contestations à l'époque. Mais il y a cette idée chez Calvin que cette ville doit être pour l'ensemble de l'Europe de l'époque, doit être, je disais un modèle, c'est pas tout à fait le mot juste, mais doit porter témoignage de cette vérité qui a été découverte dans la réforme de l'Évangile. Et donc, parce qu'il y a un environnement hostile, parce que la réforme est menacée, il faut que cette ville tienne au cœur de l'enseignement des réformateurs et au cœur de l'enseignement, oui, de la Bible. Et donc, pour cela, parce qu'il y a une pression extérieure, il décide de passer par la loi. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il voulait faire. C'est pas forcément ça, l'Évangile. Moi, je pense que c'est une faiblesse. Parce que au lieu de que ça passe par diffusion normale de cœur à cœur, eh bien, il fait passer par la loi. Alors, il y a tout un rapport à la loi chez Calvin qui est aussi autre chose, on en reparlera. Mais là, il y a quand même un problème dans la pratique de Calvin, qui est une pratique qu'on peut discuter et qui est un peu autoritaire, pour le moins. Alors, j'ai dit un mot sur la cité, sur la séparation du civil et du religieux. On n'est pas, il ne faut pas non plus faire sauter les siècles et laisser croire que Calvin est un moderne absolument sur ce plan-là, mais ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que déjà à l'époque, il y a un magistrat à Genève, il y a des autorités municipales, enfin la ville est indépendante, comme plusieurs grandes villes, comme Strasbourg, comme Bâle, donc il y a un magistrat, il y a un conseil des 500, il y a plusieurs conseils, et ce conseil, donc, à une autorité politique, civile, mais il s'occupe aussi de religieux. C'est-à-dire, par exemple, les magistrats de la cité de Genève, quand des gens ne participaient pas le dimanche matin à la Sainte-Seine, eh bien, ils étaient convoqués chez le magistrat. On leur demandait pourquoi ils n'étaient pas allés. Est-ce qu'ils avaient une excuse? Est-ce qu'ils étaient malades? Donc, vous voyez qu'il y a un lien avec... Ça, ce n'est pas Calvin qui l'a inventé. C'était déjà à l'époque, quand la ville est passée à la réforme, le magistrat tenait à voir tout ce qui se passait dans sa ville, y compris sur les questions religieuses. Et là, Calvin, et ça c'est intéressant, Calvin s'est insurgé contre cette idée-là. C'est-à-dire qu'il a passé son temps à se battre contre le magistrat, contre les conseils de la ville de Genève, qui voulaient interférer dans le domaine qui appartenait à l'Église. Donc dans le domaine de la vie des pasteurs, dans le domaine de la théologie, dans le domaine de la vie des croyants. Et donc il n'a de cesse que de se battre pour limiter le pouvoir du magistrat. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on n'a pas la laïcité à la française, rassurez-vous, ce n'est pas du tout ça qu'il pensait. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, parce qu'en France, on a cette idée que l'État est le garant de nos libertés. En fait, la laïcité à la française, c'est que, ça vient de Machiavel, c'est qu'il faut que le politique s'émancipe du religieux, il faut que le politique prenne son indépendance et laisse le religieux à la porte et mette le religieux le plus loin possible, et comme ça, on sera plus libre. Tant que le religieux n'intervient pas dans la cité, c'est bon pour nous. Et c'est l'État qui garantit nos libertés. On a toujours cette idée-là, d'ailleurs. Hein. C'est l'État qui garantit les libertés de chacun. Ça, c'est la vision française. Calvin, il pense... son histoire est tout à fait différente. C'est-à-dire que le religieux a sa place, le politique a sa place, mais lui, ce qu'il prône, c'est une autonomie du religieux par rapport au politique, alors que ça n'existait pas à l'époque. Et ça, c'est un changement à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, le religieux est soumis au politique, et je disais tout à l'heure, le politique s'occupe du religieux. Lui, il veut séparer, il veut qu'il y ait une autonomie des deux, et il veut surtout préserver la religion, l'Église, les pasteurs, de l'influence du politique. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est exactement le modèle américain. Quand on compare les modèles laïcité à la française du modèle américain, en France, c'est l'État qui garantit nos libertés. Aux États-Unis, l'État est une menace pour les libertés. Les gens pensent vraiment ça. Il faut limiter le pouvoir de l'État, il faut limiter les intrusions de l'État qui viennent menacer les libertés. Aux États-Unis, pour dire rapidement, la religion est du côté des libertés. Et les religions servent les libertés. En France, on a l'impression que les religions menacent les libertés, que l'Église catholique a toujours menacé les libertés, et que si l'État n'était pas là pour l'empêcher, elle recommencerait à vouloir peser sur nos consciences. Calvin a introduit complètement autre chose, a introduit l'idée de deux sphères autonomes. Et ce modèle-là, via les puritains hollandais et anglais, il est passé aux États-Unis. Et quand on compare ce que dit Calvin par rapport à cette question de l'autonomie du politique et du religieux, on a quelque chose qui ressemble au modèle américain, beaucoup plus qu'au modèle français, qui est lié au modèle français, qui est lié à une histoire, qui est l'histoire de la France, mais qui n'est pas du tout lié à cette affaire-là, à ce qu'a vécu Calvin, alors que les États-Unis ont ce modèle calviniste encore aujourd'hui. Mais ça, je soumets ça à la discussion, si vous voulez en parler tout à l'heure. Je parlais du magistrat et de sa place. Ce qui est intéressant chez Calvin, c'est que on dit parfois que Genève était une espèce de théocratie. Je disais tout à l'heure, je comparais à l'islam. On dit qu'aujourd'hui, voilà, ça ressemble à des gens qui seraient des mollahs. Enfin, Calvin serait une espèce de mollah ou d'ayatollah qui dominerait une cité. En fait, ce qui est extrêmement intéressant et entièrement faux par rapport à ça, c'est que je disais tout à l'heure, il y a une autonomie. Mais surtout, Calvin respecte absolument le magistrat et les décisions du magistrat. Toutes les décisions qui sont prises, quelles qu'elles soient, sont prises par le magistrat. C'est jamais Calvin qui prend la décision tout seul. Il s'en remet au magistrat. Il va plaider sa cause. Il est très souvent devant le Conseil des 500 ou devant les magistrats de Genève. Il va défendre, il argumente à l'infini. Mais c'est le magistrat qui décide, c'est pas lui qui décide, c'est pas le religieux qui décide. Même dans l'épisode de Servet, je ne veux pas trop allonger, je parlerai de Servet si vous voulez tout à l'heure, qui est une tâche dans la vie de Calvin, enfin c'est ce qu'on dit, c'est quand même vrai. Dans la condamnation de Servet, ce n'est pas Calvin qui condamne Servet au bûcher, ce n'est pas Calvin qui décide de le condamner parce qu'il est hérétique, parce qu'il ne croit pas à la Trinité, c'est le magistrat qui prend la décision. Farel et Calvin accompagnent le supplicié, ils ne défendent pas, ils jugent que ce qu'il dit mérite peut-être le bûcher, mais ce n'est pas eux qui le décident, c'est une décision du magistrat. Et pour toutes les décisions, Calvin ne décide jamais. Donc c'est, je veux dire, la comparaison avec les ayatollahs, les mollahs, avec cette idée de fusion du religieux et du politique est entièrement fausse et ne correspond pas du tout à la réalité de l'époque. Alors on dit souvent Genève, espèce de domination comme ça religieuse, ce n'est pas vrai. Il y a toujours eu cette idée, tout le temps quand Calvin a été à Genève, de séparation du politique et du religieux. Et je ne peux pas dire que le débat parlementaire, le parlementarisme remonte à Calvin, il ne faut pas non plus exagérer, mais il y a cette idée qu'il y a toujours un débat. Calvin vient prêcher, plaider sa cause, défendre ses causes devant le magistrat, mais il y a toujours débat. C'est un système parlementaire, il accepte parfaitement ça. Il ne dit pas qu'il faut passer à une domination d'un prince ou d'un roi. Il accepte complètement ce domaine-là. Un autre domaine dans lequel Calvin est très moderne et extrêmement vivant et actif, c'est l'économie. Alors on a dit parfois, est-ce que Calvin serait le père du capitalisme moderne ? Alors ça, on dit ça rapidement. Alors à la fois, on peut dire que, bon, peut-être, mais ce n'est pas certain. Alors deux mots sur l'économie et sur ce que Calvin a fait sur cette question-là. Ce qui se passait à l'époque, qui est assez intéressant, c'est que la mendicité, vous savez, les ordres mendiants, les dominicains, les franciscains, donc l'idée de mendier et d'être à ce moment-là, dans cet acte de mendiant, de se faire pauvre, parce que la vision de François d'Assise, de se faire pauvre et de cette manière de s'approcher de Dieu, de renoncer à tout, de renoncer à ses biens, de renoncer à une vie insérée dans la société et de se faire pauvre, était valorisée dans la tradition du Moyen-Âge. C'est-à-dire que la mendicité n'était pas quelque chose de refusé, c'était au contraire quelque chose qui était sanctifié, on peut dire, grâce à la grande vision de Saint François, hein, de cette idée de se rendre pauvre pour servir le Christ. Et donc la mendicité existait à l'époque. Et ce qui est très intéressant, c'est que rapidement, dans les villes réformées, et en premier lieu à Genève, la mendicité a été radicalement supprimée, interdite. Calvin pense que la mendicité n'est pas une voie de salut. De se faire pauvre, ce n'est pas une voie qui a été demandée par Dieu. Ce n'est pas du tout un chemin qu'il faut prendre. Il pense que tout le monde doit gagner sa croûte à la sueur de son front, et donc en travaillant. Et c'est vrai que là, il y a une vraie modernité. C'est-à-dire que c'est Calvin le premier qui dit que la vocation des hommes et des femmes de son temps et de tous les temps, c'est le travail. La manière de servir Dieu, la meilleure manière de servir Dieu, c'est d'être fidèle dans son travail. Et donc, il y a une valorisation à l'extrême du travail. Alors, il n'est pas dans le travailler plus, comme on dit aujourd'hui, mais il est dans, effectivement, le travail et la vraie vocation de l'homme. Pour une raison très simple. Dans la mesure où le salut est acquis par grâce, le salut est donné au départ. Le champ d'activité de l'homme, ce n'est pas de faire son salut, ce n'est pas de courir les lieux de pèlerinage, ce n'est pas de pratiquer toutes sortes de pratiques religieuses. Le champ de l'activité humaine, c'est le travail. Et donc, il n'a de cesse que d'encourager au travail. Et il développe à Genève des industries. Il encourage l'imprimerie, il encourage l'horlogerie, il fait venir des gens, il y a des gens de Provence qui venaient, qui amenaient des cultures, et il développe tout ça. Et pour dire qu'il intervient dans tous les domaines, et il pousse à ce que les gens se développent dans ce domaine-là, parce qu'il pense que la vocation des chrétiens, renouvelée par l'Évangile, c'est d'être dans la cité et de participer au développement de la cité. Alors il y a une chose assez extraordinaire que rapporte Dermange, il s'appelle Pierre Dermange ou Olivier Dermange, c'est un professeur de théologie et d'économie qui est à Genève, et il a fait une étude assez étonnante où on relève qu'en France, on peut suivre, et ça c'est dramatique parce que c'est encore vrai, on peut suivre sur 3 siècles des familles qui sont dans la pauvreté la plus absolue, c'est-à-dire qu'on transmet la marginalité. Des gens qui sont dans la misère la plus totale, leurs enfants le sont encore, leurs petits-enfants encore, et ça, on peut retrouver des gens, des familles, des noms, qui sur 3 siècles courent dans le plus extrême dénuement. Et à Genève, en Hollande, dans les lieux réformés, ça s'arrête. Il n'y a pas de tradition de pauvres. Pourquoi ? Parce que Calvin pense que là, la pauvreté, c'est absolument à éradiquer, c'est pas une voie qui est bénie de Dieu, c'est pas une voie choisie. Si on est pauvre, très bien, on y est, mais il faut en sortir. C'est pas une voie de salut. Donc, il faut sortir de la pauvreté. Donc, ce qu'ils font, et ça, c'est autoritaire, encore une fois, c'est pas dans la police, mais quand même, ça y ressemble un peu, c'est-à-dire que les enfants des familles les plus pauvres, ils les sortent de leur famille. Si on faisait ça aujourd'hui, évidemment, ce serait pas très bien, pas très apprécié. Ils les sortent de leur famille et ils les mettent dans des... Alors, il y a la formation, c'est un point très important, le collège. Ils les mettent dans des lieux, on va dire, d'apprentissage, de connaissances. Et puis, ces enfants, ces jeunes enfants, pour Calvin, l'enseignement, c'est très, très important, dès l'origine. Ils sont élevés en dehors de leur famille. On leur apprend des rudiments de science, enfin de sagesse et de connaissances humanistes d'époque. Mais aussi, on leur apprend des métiers. Et après, on prend les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et après, on les fait se rencontrer et on les marie. Enfin, on ne désigne pas leur mari, mais on les fait se marier ensemble. Et de ce fait-là, c'est vrai... On voit que la chaîne, l'enchaînement de pauvreté s'arrête. Alors que dans d'autres pays, de d'autres traditions, ces lignées de pauvreté continuent. C'est pour dire combien, pour Calvin, l'économie, c'est-à-dire l'insertion dans la vie sociale et économique, est très, très importante. Donc il y a même aussi la différenciation des métiers. C'est-à-dire qu'il dit que quand on a un métier... Il faut l'approfondir. Et puis si un métier devient, je ne sais pas, si on arrête de faire maréchal ferrant parce qu'on fait des pneus de voiture, bien, il faut faire des pneus de voiture, il ne faut pas rester maréchal ferrant. C'est-à-dire que quelque part dans la spécialisation, il y a aussi la modernité économique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut changer de métier si le métier ne rapporte pas. Si ce n'est pas intéressant, il faut changer de métier. L'autre point qui est le plus connu, c'est le prêt à intérêt. C'est-à-dire qu'il dit que l'usure, c'est pas très bien. En gros, les gens de Wall Street, tous les subprimes, faire de l'argent avec l'argent, ça, c'est pas très très bien. Mais par contre, faire de l'argent, quand on investit, quand on prête de l'argent pour construire une entreprise, pour développer une activité économique, ça, c'est très très bien. le prêt à intérêt était interdit dans l'Église catholique, lui le permet parce qu'il dit, d'abord, ça va développer l'économie, puis c'est une hypocrisie parce qu'on fait faire ça aux Juifs dans la tradition, dans les pays de tradition catholique. Donc il faut le laisser faire. Il ne dit pas que c'est formidable, mais il dit si ça peut développer l'économie, si ça peut développer l'accès au travail, il faut le faire. Donc on voit là plusieurs pistes, la spécialisation du travail, l'idée que la vocation de l'homme, c'est le travail, l'idée que le prêt à intérêt, ce n'est pas forcément interdit. Il y a là effectivement des racines de ce qu'est notre modernité économique. Alors est-ce que Calvin est le père du capitalisme? On ne peut pas dire ça. Mais c'est quelque part effectivement le père de l'économie moderne. En tout cas, il a délié les liens religieux qui empêchaient l'économie de se développer. À travers ces deux ou trois exemples, on voit très bien ça. Mais par contre, on ne peut pas dire qu'il est seulement dans... On ne peut pas le faire le père d'Adam Smith ou du capitalisme, laisser faire le plus sauvage, parce qu'à Genève, il organise beaucoup de choses pour les plus pauvres. Par exemple, il crée des hospices. Les lépreux sont accueillis. Il organise des collectes pour ceux qui n'y arrivent pas, qui sont en difficulté, dans les familles qui sont atteintes de la peste, qui sont vraiment dans le dénuement le plus total. Il demande à ce qu'il y ait une solidarité qui s'organise. Donc il y a une redistribution, il y a un partage, il y a un effort de solidarité. Et il dit même les riches, il y a quelques riches à Genève, il dit que la responsabilité des riches, c'est de partager avec les pauvres, et que les pauvres sont là pour aider les riches à ne pas se satisfaire de leur richesse, à ne pas compter que sur leur propre richesse. Les pauvres sont là pour rappeler aux riches qu'ils dépendent aussi de Dieu, et ils ne dépendent pas que de leur pouvoir, de leur savoir et de leur richesse. Donc il y a cette idée de partage, de solidarité, qui est déjà là. Alors, on ne peut pas non plus dire que c'est le père du socialisme, Calvin n'a pas tout inventé, mais on ne peut pas dire qu'il est plus le père du capitalisme que le père des solidarités qui nous paraissent évidentes aujourd'hui. Donc dans Genève, il y a un peu tout ça. Alors sur la politique, j'en ai parlé. Est-ce que je vais bientôt m'arrêter? Sur la politique, j'en ai parlé. Je crois qu'il n'y a pas plus à dire par rapport aux politiques et aux religieux. Il y a quand même l'idée pour chez Calvin que le modèle pour lui qui lui paraissait le plus évident, c'était un prince éclairé, c'est-à-dire un prince qui accepte les principes de la réforme, qui accepte que l'évangile soit prêché comme il entendait, comme la réforme le proposait. Ça lui paraît une évidence. Et il conteste pas qu'il faut qu'il y ait des princes éclairés qui gouvernent les peuples. Il n'est pas du tout en révolutionnaire à ce niveau-là. Par contre, il y a un point intéressant, et c'est là qu'il est aussi, ça nous rappelle un peu le pragmatisme anglo-saxon, c'est qu'il est très pragmatique. C'est-à-dire qu'il pense que ce qu'il ne faut pas, c'est avoir des principes et des principes intangibles, mais il faut bien regarder la réalité, il faut regarder l'histoire, il faut regarder le monde tel que l'histoire se déroule, et quand on voit que les choses changent, eh bien, il faut s'adapter parce que c'est pas nous qui avons raison, c'est le monde qui a raison, c'est l'histoire qui a raison, et Dieu nous parle par l'histoire, il ne parle pas seulement par nos intuitions, nos idées, nos principes, nos visions, mais il nous parle à travers l'histoire. Tout très simplement, quand il voit qu'il y a une ouverture en France pour la réforme, il dit aux gens, alors qu'il disait pendant des années avant, il avait dit il faut fuir la France, il faut quitter, il faut partir, ben il dit maintenant il faut rester. Il faut rester et il faut essayer de développer la réforme en France. Quand il voit que des princes se montent, les persécutions se développent et que les princes sont de plus en plus durs et violents vis-à-vis de la réforme, il dit non seulement il faut quitter le pays, mais il va même jusqu'à dire que s'il y a un tyran, si des tyrans s'opposent réellement à Dieu, on peut destituer les tyrans. Donc l'idée de tyrannicide, elle est chez Calvin. Et dans l'histoire, elle aura une certaine fortune. Il y a des pays qui accepteront, notamment la Hongrie, qui accepteront la réforme pour cette raison-là, parce qu'ils voulaient se passer de leur roi, de leur tyran. Et donc c'est vrai que là, il y a une évolution assez étonnante chez Calvin qui est complètement liée aux situations politiques. Quand la situation politique est favorable, il dit qu'il faut se soumettre, il faut rester dans telle région du monde, en tout cas en France. Quand... on voit que les persécutions montent, il dit il faut partir. Dieu nous demande ça. C'est une espèce de providence. Dieu parle, c'est la providence qui parle, c'est la providence qui a raison. Et quand les choses vont très très mal, eh bien, il dit on n'a pas le devoir, mais on peut se révolter contre les tyrans au nom des valeurs de l'évangile, au nom du message biblique. Donc on ne peut pas dire qu'il a une seule vision politique, il n'a pas une espèce de vision qui englobe tout, mais il est d'un pragmatisme extraordinaire. On voit ça aussi dans ses écrits. Tout à l'heure, on parlait de son institution chrétienne qu'il a repris 6 fois. Et on voit au fur et à mesure qu'il réécrit le texte, il le réécrit par rapport au débat qu'il a, aux circonstances de ce qui se passe devant lui. Donc il adapte sans arrêt. Et là, il y a vraiment une idée pragmatique, un pragmatisme à toute épreuve qui est intéressant parce que c'est pas un homme de principe, c'est pas un homme de soumission à quelques règles qui s'est donné. C'est un homme qui regarde l'histoire et parce qu'il pense que l'histoire, c'est le lieu où on rencontre Dieu. C'est dans l'histoire que Dieu se manifeste et c'est dans l'histoire du temps qu'on le rencontre, et c'est pas simplement dans des principes qu'on a. Maintenant, le point central, ce que je disais tout à l'heure en commençant, et c'est mon point terminal, c'est qu'il reste essentiellement un commentateur de l'Écriture. Et ce qui est assez extraordinaire quand on lit Calvin, c'est qu'il vit avec les personnages bibliques. C'est-à-dire qu'il est il est Moïse qui traverse la mer Rouge, il est David qui se bat contre Goliath, et il est David des Psaumes. Il fait corps avec ces personnages bibliques, il vit avec la Bible, et il passe toute son énergie à commenter l'Écriture. Alors, il commente l'Ancien Testament, alors qu'on le commentait très très peu à l'époque. Il commente à l'infini. Il développe tous les personnages bibliques sont commentés, sont pénétrés de l'intérieur. Il parle des personnages bibliques comme si c'était des proches. Il s'identifie beaucoup avec ces personnages bibliques. Ça devient, oui, des proches, et il les rend proches, d'ailleurs, à ses auditeurs. Un petit point qui est intéressant, c'est que il a tellement fréquenté l'Ancien Testament que, contrairement à Luther, il a des propos par rapport au judaïsme et aux juifs qui sont tout à fait remarquables. Vous savez que Luther a des propos à la fin de sa vie sur les juifs qui sont épouvantables. Il les traite de tous les noms. Calvin traitait aussi pas mal de gens de tous les noms. Mais là, jamais, il n'a pas fait sur les juifs. On est encore heureux. Par contre, Luther l'a fait. Et alors, il dit même, par un moment, il dit que les juifs, parce qu'ils, comme lui, ils fréquentent l'Écriture assidûment, ils sont plus proches de Dieu que les catholiques. C'est pour dire qu'il n'aimait pas trop, les catholiques romains. Mais cette fréquentation de l'Écriture, avec cette idée que Dieu est dans l'histoire, ce va-et-vient entre l'histoire du monde qui se déroule devant ses yeux, avec tous les enjeux du monde, et la lecture de l'Écriture, le commentaire de l'Écriture, est vraiment le cœur de sa vie. Ce va-et-vient entre l'histoire telle que se déroule, et la lecture de la Bible, et l'un va avec l'autre, l'un ne va pas sans l'autre. À la fois, le monde éclaire la lecture de l'Écriture, et la lecture de l'Écriture éclaire la façon de comprendre le monde. Et là, pour moi, il y a tout Calvin, avec cette idée aussi de cette idée que finalement, ce que Dieu demande, c'est que l'homme soit debout, c'est que les hommes et les femmes soient des hommes et des femmes debout, libres, et puissent choisir leur destin dans le monde à travers ce que Dieu leur proposera. Voilà ce que je voulais dire sur Calvin ce soir. Alors, je n'ai pas parlé de Servet, je n'ai pas parlé de plein de choses, mais on va en parler dans la discussion, la prédestination, enfin tout ce que vous voulez, parce qu'en un peu plus d'une heure, on n'a pas le temps de tout dire. Alors, je sais pas, vous pouvez parler assez fort, on s'entendra. Ah. Physique, oui.
Physique, il s'est aussi marié et il a connu dans son mariage beaucoup de difficultés puisque sa femme est morte très très tôt.
Elle est morte au bout de 10 ans de vie commune. Oui. Il a eu 2 enfants qui sont morts tout à fait jeunes, qui avaient quelques semaines.
Est-ce que vous pourriez un peu développer cet aspect de ses souffrances plus personnelles, on pourrait dire sur lequel il ne s'est pas attardé dans ses écrits, mais aussi cette confrontation qu'il a vécue avec ses interlocuteurs qui sont devenus parfois ses ennemis, ou même certains qui ont été ses amis et qui l'ont quitté comme Castellon.
Oui. Alors, sur son mariage, il y a deux, trois choses qui sont assez marrantes, assez intéressantes. J'avais un débat la semaine dernière avec Catherine Trottmann à Strasbourg qui disait qu'il n'est pas très féministe, Calvin. Franchement, là, il pourrait faire des progrès. Les femmes, c'est pas grand-chose. Alors, je ne veux pas le défendre pour, à tous les sujets, à tous les, sur tous les sujets, mais c'est assez rigolo quand même parce que Calvin, il se trouve avec son ami Farel, Farel était quand même plus âgé que lui, il se trouve à Strasbourg à une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans, et il n'est pas marié. Et alors, leur problème à tous les deux, parce qu'on connaît beaucoup de choses de Calvin par sa correspondance, notamment avec ses proches et avec Farel, et donc ils discutent avec Farel, et leur débat c'est, écoute, bon, ils disent, voilà, nous sommes des réformateurs, nous avons rompu avec l'Église catholique, donc nous ne pouvons pas être comme des curés. Donc ce n'est pas possible de ne pas être marié, il faut qu'on se marie, il faut qu'on prenne une femme. Donc évidemment, j'entends des rires, ce n'est pas forcément, c'est pas très romantique, quoi, comme c'est pas, oui, ça manque de poésie. Alors ils disent, oui, il faut qu'on trouve une femme, et toi comme moi, et qu'on ne reste pas célibataire. Et donc, c'est assez rigolo parce qu'à Strasbourg, on lui présente des tas de jeunes filles tout à fait bien. Enfin, je ne sais pas, on s'empresse autour de lui pour lui présenter des filles. Alors, il en trouve une trop noble, une trop riche, une trop effacée, une qui ne parle pas français, donc ça ne va pas du tout. Bon, et alors, il discute avec Farel, c'est assez rigolo. Et ils disent donc, voilà, il faut que j'aie une femme, premièrement, parce qu'il ne faut pas que je sois comme les curés, il faut que je me marie. Point. Deuxièmement, et ça c'est pas très féministe, il dit, parce que j'ai une mission, ils sont appelés par Dieu, ça c'est clair, il dit, j'ai une mission, je suis appelé par Dieu, et cette mission, il faut que j'ai quelqu'un qui m'aide, quoi, qui m'accompagne, je peux pas la faire tout seul. Donc une femme, c'est une aide, c'est une accompagnante, c'est quelqu'un qui veille sur sa santé, parce qu'elle est fragile, sa santé, et qui soit une assistante de tous les jours, sauf que sa femme, Idelette de Bure, elle est encore plus malade que lui, elle est très très souffrante, et ils vivent ensemble, donc ils se marient. Alors Farel dit, voilà, on a trop, voilà, ça se passe assez rapidement. Il en trouve une qui était la veuve d'un anabaptiste qui est mort de la peste. Et donc, cette femme, Idelette, avait déjà deux enfants. Et il se marie avec elle. Et alors, Farel dit, et en plus, elle est jolie. Donc, il note qu'il n'est pas quand même austère. Il voit qu'elle est jolie, il s'en réjouit. Mais bon, le problème, c'est qu'ils partent de Strasbourg, ils vont à Genève. Il a deux enfants, ils ont deux enfants qui meurent en quelques semaines. Enfin, un, on n'est pas très sûr. Un, en tout cas, on connaît. Il y aurait une fille, mais on ne sait pas trop. Selon certaines sources, il aurait eu un deuxième, mais on n'est pas très, très sûr. En tout cas, il y a un qui meurt et il écrit des mots et des lettres bouleversantes quand cet enfant meurt et quand sa femme meurt aussi. Vraiment, on sent un homme désemparé. Enfin, il dit, mais qu'est-ce que cherche Dieu ? Tu m'as criblé comme le froment. Enfin, il se sent abandonné. Il est, non pas qu'il doute, mais il est dans une souffrance humaine très très profonde. Et on voit chez Calvin des liens amicaux, vous le disiez à l'instant, des liens d'affection très forts. C'est vrai qu'à la fois, on a l'impression d'un, je disais, un bourreau de travail, un homme d'une intelligence vive, enfin extraordinaire, mais c'est un homme d'affection. Et c'est marrant parce qu'il est à la fois, il a ce côté d'un intellectuel très très brillant qui peut être froid, qui peut être très sévère. Il est très sévère avec les gens. Quand les gens sont des médiocres ou sont pas très forts, ils se font sabrer. Alors c'était épouvantable. Plusieurs pasteurs apprennent ça à leur dépens. Castellion aussi. Enfin, il est très dur avec les gens qui sont pas très brillants, qui sont pas très forts. Il est sans pitié. Ça c'est un trait de caractère qui est pas tout à fait génial. Quoi. Il manque un peu de compassion. Il se met en colère aussi très souvent. Enfin, il pique des colères quand il est pas d'accord du tout. Et il a à la fois ce côté très affectueux. Enfin, c'est je sais pas, comment on appelle ça au point de vue caractère. C'est il est pas soupolé, mais c'est-à-dire qu'il est à la fois il a des brillances comme ça. Il est un grand intellectuel. Très carré et en même temps des très grandes émotions, à la fois parfois de colère, mais aussi d'émotions de tristesse avec son ami Dutillet, quand Dutillet l'abandonne, parce que Dutillet, ils avaient cheminé ensemble, et Dutillet, à un moment, rompt, et ne retourne au catholicisme. Il est très fâché, il est meurtri par ça, il ne lui parle plus, il sait qu'ils ne se répondent plus, alors que, non pas parce qu'il n'aime plus, parce qu'ils étaient très très liés, mais ça lui fait trop mal, quoi, il ne peut pas supporter. Et quand il parle de la mort de son jeune enfant, c'est vrai que c'est bouleversant, on sent un homme très, oui, très affectueux, très pris par l'émotion, et pareil pour la mort d'Idelette, c'est très, très, très émouvant, il dit qu'il met des semaines, des mois à s'en remettre, il n'arrive plus à prêcher, et pourtant il dit qu'il se rejette dans le travail, il commente l'écriture, il fait un travail théologique intense, justement parce qu'il n'arrive pas à s'en remettre, quoi. Il n'arrive pas à reprendre le dessus. On sent un homme, oui, très démuni, et puis très honnête. Enfin, c'est assez intéressant aussi, ça, de voir comment il est transparent et puis il reconnaît ses torts. Quand il se met en colère à un moment à Strasbourg face à un Caroli qu'il a causé d'avoir une vision sur la Trinité qui n'était pas très claire, il se met dans une colère telle qu'il rentre chez lui, il vomit, il ne peut pas dormir, il est noué, enfin c'est épouvantable. Et après il dit qu'il a honte de cette colère, il a honte d'être mis dans cet état-là, il demande pardon, il dit qu'il ne comprend pas pourquoi il était aussi pris par ça. Mais à la fois il est pris par des violents accès émotionnels, et puis il se dit non, ça ne va pas, je n'ai pas été là tout à fait correct. Voilà, donc c'est vraiment un homme à la fois de grandes passions et de grandes émotions. Tout le contraire de cet homme froid, austère et coincé qu'on nous décrit. Ah non, c'est vraiment un vivant, mais il a beaucoup de maladies, et donc c'est un handicap, ça c'est sûr aussi, qu'il a beaucoup de souffrances physiques. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais il a beaucoup d'amis, c'est vrai qu'il a beaucoup de correspondances avec des amis, mais des relations tumultueuses, je disais, avec Dutillet, il se fâche. Pareil, Castellion, il faut dire un mot sur Castellion. Castellion, il rencontre à Strasbourg. Castellion vient vers lui parce qu'il a lu l'Institution de la religion chrétienne, le premier livre de Calvin. Il trouve ça extraordinaire et bouleversant, Castellion. Et il vient pour se mettre avec Calvin, pour devenir un disciple du maître. Et donc Castellion étant aussi un brillant intellectuel, un lettré, un grammairien, il traduit aussi, il travaille sur le grec et il traduit le Nouveau Testament. Et ils font venir à Genève Farel et Calvin, et ils lui donnent la responsabilité du collège. Je n'ai pas dit un mot sur le collège, mais pour Calvin, le collège, l'éducation, c'est un domaine très important. Il a fondé un collège, l'université, donc tout ça est très important pour lui. Et il confie à Castellion la responsabilité de ce collège. Donc c'est pour dire qu'il a une confiance absolue en Castellion. Et il se fâche avec Castellion. Castellion le prend très mal parce que Castellion lui propose une traduction du Nouveau Testament. Et il lui amène sa traduction et Calvin trouve ça minable. Mais pas bon du tout. Il lui dit. Et l'autre ne le prend pas bien du tout. Alors ils discutent, ils font plusieurs va-et-vient. Castellion veut discuter avec lui de telle et telle traduction. Alors il écrit, Calvin écrit à Farel, il dit, moi je ne veux pas passer des journées à discuter d'un mot, en plus il se trompe, il n'emploie pas les mots qu'il faut, enfin il me fatigue, ras-le-bol quoi. Et donc il fâche très fort Castellion, parce qu'il n'est pas patient, en fait il n'est pas patient. Il manque de patience, il manque de compassion, il manque de patience, il ne supporte pas parce que l'autre pinaille, il trouve que ce n'est pas bon, et puis ce n'est pas bon, voilà. Et donc Castellion se fâche et part de Genève, et il s'installe à Bâle. Et vous savez cette histoire où quand Servet sera condamné à Genève, c'est le seul qui est condamné à Genève. Il y a eu d'autres histoires, mais Servet est condamné à mort à Genève, donc il est brûlé. Et Castellion a ce mot formidable et terrible, mais c'est un mot formidable. Il écrit, Castellion, il fait un traité contre Calvin, et il écrit « Brûler un homme ou tuer un homme, ce n'est pas éradiquer une hérésie, c'est tuer un homme. » Et c'est le premier qui dit ça au XVIe siècle. L'Inquisition, elle faisait des bûchers, il y en avait sans arrêt, on brûlait des gens. Servet était à Vienne, il aurait été brûlé, s'il n'était pas venu à Genève, on l'aurait brûlé. C'est aussi pour ça, c'est une affaire politique. On a brûlé Servet à Genève parce que si on n'avait pas brûlé, la réforme aurait été accusée d'être anti-trinitaire et donc d'être une hérésie pure et simple qui méritait simplement d'être éliminée. Et donc l'Inquisition l'aurait condamné à mort, l'avait déjà condamné à mort, il devait être brûlé. Et donc Castellion, le premier dit ça, et il le dit avec... dans un texte très très fort, et c'est vrai que ça c'est quand même une pensée qui est d'une modernité extraordinaire. Tuer un homme, c'est pas éradiquer une doctrine, mais c'est tuer un homme, c'est-à-dire que la personne humaine est centrale. C'est une idée qui n'est pas connue au XVIe siècle. Enfin, l'idée centrale, c'est le collectif. Il faut sauver le collectif, il faut sauver Genève, il faut sauver la réforme, il faut sauver la communauté protestante, il faut sauver tout ce que vous voulez, mais la personne humaine est au service de ce collectif. Il vaut mieux qu'un seul meure plutôt que l'ensemble. Et donc tout le monde pense ça, et Calvin pense ça aussi. Et Castellion le premier, ça c'est remarquable, même s'ils étaient par une haine, enfin pas une haine, mais en tout cas une opposition personnelle radicale et forte avec Calvin, ses anciens amis, ce qu'il dit là est aussi au cœur de notre modernité. C'est l'émergence de la personne humaine, le respect absolu de la dignité humaine vient de cette impression de Castellion. Et par la suite d'ailleurs, ça c'est intéressant, cette condamnation de Servet a donné lieu au sein des églises réformées de l'époque, donc des autres villes, de Zurich, de Lausanne, un intense débat avec aussi ce qu'a écrit Castellion en disant, mais est-ce que la réforme ne s'est pas totalement trompée? Est-ce que là, on ne fait pas comme ceux qu'on dénonce, comme l'église catholique qu'on dénonce? Est-ce que tuer un homme, est-ce que brûler quelqu'un pour une pensée même hérétique, est-ce que c'est justifiable? Et donc vient l'idée, à cette époque-là, mais elle n'est pas chez Calvin, vient cette idée que la liberté de conscience est essentielle. Et souvent, on attribue la liberté de conscience à la réforme et à Calvin, et ce n'est pas tout à fait juste. Ça vient plus tard, ça vient dans le débat que la réforme a avec elle-même, et a notamment avec Calvin, mais ce n'est pas Calvin qui promeut la liberté de conscience. Lui, il n'est pas tout à fait dans cet esprit-là. Il est dans l'idée qu'il faut à tout prix sauver la réforme. Mais c'est Castiglione qui, le premier, fait cette ouverture sur l'importance de la personne humaine. Ouais, pardon. Oui. J'ai pas entendu, excusez-moi. L'anticatholicisme de Calvin. J'ai pas compris. Les évolutions. Non, redites-moi, excusez-moi, j'ai pas compris le sens de votre question. Comment?
Comment il a perçu les attaques? Il a dû se défendre vis-à-vis des catholiques. Comment est-ce qu'il a perçu les attaques des catholiques contre lui?
Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'elles étaient, elles étaient violentes, elles étaient régulières, elles étaient fortes. Non, mais comment il les a perçues C'est assez compliqué parce que, en fait, pour lui, les attaques de l'Église catholique justifient sa position. Si vous voulez, ça se répond, quoi. C'est en dialogue. C'est-à-dire que, dans la mesure où il défend, où il codifie la doctrine réformée, et où cette doctrine reçoit des oppositions de plus en plus radicales de l'Église catholique, en miroir, ça lui montre que la voie qu'il a prise, et ça le justifie, est une voie nouvelle. Et une voix qui conteste ce qui est devenu l'Église catholique. Parce que Calvin, il se rapproche, il dit que en fait, l'Église catholique des pères de l'Église, des pères apostoliques, c'est son Église. Augustin, c'est l'Église. Mais il dit que l'Église du XVIe siècle, l'Église au cours des siècles, a dévié, a perdu le message original. Donc, pour lui, il revient au message de l'origine. Et donc, les attaques de l'Église catholique, à la mesure où elles sont de plus en plus violentes, le justifie dans l'idée qu'il a tapé juste. Et il ne perd pas ça, il ne perçoit pas les attaques comme des persécutions gratuites, mais il pense que c'est le combat de la vérité, de la parole de l'Évangile contre l'obscurité. Hein, c'est le combat des ténèbres contre la lumière. Plus la lumière est forte, plus les oppositions sont radicales. Donc, loin d'apaiser son engagement ou de le calmer, de le limiter, les oppositions de l'Église catholique le confortent dans l'idée qu'il y a là vraiment quelque chose d'essentiel. Et il est tout le temps, effectivement, dans l'idée que rien ne peut venir de bon. Enfin, pour lui, la réforme, une réforme de l'Église catholique en interne, à partir du moment où il a fait le choix de la réforme, où il se convertit, où il passe à la réforme, il n'y a pas de retour possible. Il ne pense pas que la réforme peut, que l'Église catholique peut se réformer, peut évoluer. Mélenchon pensait qu'il y avait des évolutions possibles, mais lui, il ne pense absolument pas qu'on peut rabibocher ces deux grands courants de l'Église. Il pense qu'il y a une rupture radicale et il faut que l'Évangile soit maintenu contre vents et marées. Et l'Évangile, c'est celui qui a été, c'est celui de la réforme, quoi. Donc il n'y a pas de pont. Et d'ailleurs, du côté catholique, c'est pareil. Le concile de Trente, la contre-réforme sera en fait le miroir des principes de la réforme qui seront pris en miroir pour les contester radicalement. Le concile de Trente, c'est radicalement des points opposés aux intuitions de la réforme. Et quand on voit les intégristes d'aujourd'hui revenir au concile de Trente, dire qu'il faut être fidèle au concile de Trente, on peut dire que le concile de Trente est une espèce d'exception dans l'histoire de l'Église et que Vatican II a repris plutôt le grand courant de l'Église des pères, alors que le concile de Trente est une espèce d'accident de l'histoire qui était opposé tellement à la réforme qu'elle a creusé les différences. Mais c'est la possibilité, elle est partagée de côté. Calvin pensait qu'il n'y avait pas de pont possible et l'Église catholique, par la contre-réforme, a creusé aussi les différences et les oppositions avec la réforme. Oui.
Personnellement, la conclusion de mentir, c'est vraiment comment appliquer, mettre en œuvre, savoir les choses,
D'accord. Mais c'est vrai que, et ça c'est un des points très importants qui différencie le calvinisme de, par exemple, de luthéranisme, c'est que Calvin pense qu'il ne s'agit pas, bon, vous savez, l'histoire du troisième usage de la loi, je vais rentrer très rapidement un point là-dessus, il y a trois usages de la loi. Le premier, c'est la loi noachique, c'est-à-dire que la loi existe parce que sinon le monde s'effondrerait, on ne tue pas son voisin, son prochain, le meurtre est interdit. Donc ça, c'est le premier usage de la loi. Le deuxième usage de la loi, c'est que comme je suis, comme il y a une loi qui me montre tout ce que je dois faire et que je n'arrive pas à le faire, donc la loi me révèle que je suis pécheur. Et donc ça, c'est le thème de Luther. La loi est là pour révéler mon péché, donc le besoin de la grâce. Mais Calvin dit, bon, c'est bien joli ça, mais il manque quelque chose là-dedans. Et maintenant, on fait quoi? Quand on a été sauvé par grâce, on fait quoi? Et c'est ce que vous venez de dire. Calvin pense que la vie courante, la vie économique, sociale, politique, familiale, tous les domaines de la vie doivent être éclairés par l'Évangile. Et donc, il parle du troisième usage de la loi. Il dit que la loi, c'est-à-dire celle qui était le message de la Bible, doit être interprété, doit être compris, doit être transcrit dans notre quotidien, dans tous les domaines de la vie. Et c'est pour ça que Genève, pour lui, il intervient, et même il fait des lois, et là je pense qu'il est allé trop loin, mais il intervient pour que la cité, dans tout son ensemble de vie communautaire, soit irriguée par le message biblique. Donc c'est un peu ce que vous dites, c'est que effectivement pour Calvin, l'idée c'est que toute notre existence, tous les domaines de notre vie doivent être mis en relation avec le message de la Bible. Il n'y a rien qui peut échapper complètement au message biblique, non pas comme quelque chose qui étouffe, qui est une domination, mais il n'y a pas de domaine qui est interdit. Tous les domaines nous appartiennent, et dans tous les domaines, nous pouvons essayer, non pas en disant « voilà, j'ai trouvé la bonne voie », mais dans tous les domaines, on peut s'inspirer du message biblique pour le traduire en engagement, qu'il soit politique, qu'il soit économique, qu'il soit sociaux. Il n'y a pas une seule voie, il n'y a pas une traduction de la Bible en politique ou en économie, mais il y en a plusieurs, mais par contre, il nous appartient, nous, de traduire pour nous ce que veut dire le message de la Bible. C'est ce que vous disiez, et Calvin est complètement là-dedans. C'est d'ailleurs un des points centraux du calvinisme, donc de faire que le message de la Bible touche tous les domaines de la vie et que tous les domaines soient irrigués par le message biblique. Voilà, oui.
Vous avez parlé de la formation
Oui, oui. C'est-à-dire qu'il a créé, dès le départ, il crée des écoles. Il dit que dès le premier âge, il faut que les enfants soient éduqués. Donc déjà, il leur apprend à lire, à écrire, à compter. Il fait venir des professeurs un peu partout. Il développe le latin, mais aussi en français, les mathématiques, l'astronomie, les domaines essentiels de l'époque. Il faut qu'ils soient enseignés. Mais à côté de ça, évidemment, il crée un catéchisme.